Vous êtes bien sur Radio U 101.1. Retrouvez maintenant Univers Santé, votre pause santé du mois. Cette émission est présentée par les étudiants en santé de l'UBO. Rencontre avec des étudiants et des professionnels de santé. Votre rendez-vous mensuel tous les deuxièmes mardis du mois à 17h. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. C'est Yvan, le coordinateur des étudiants en santé de l'UBO. Et vous êtes bien sur Radio U 101.1, la radio qui donne le sourire. Aujourd'hui, dans notre émission Univers Santé, nous traitons la thématique de l'addiction et plus précisément, comment s'assurer de ne pas tomber dans une consommation excessive de l'alcool face au poids qu'il occupe à l'université. L'émission se compose en plusieurs parties. Pour commencer, Anna va nous raconter une anecdote qui, vous le verrez, donne matière à réflexion. Ensuite, nous aurons Sam et Mana, étudiants à Brest, et le docteur Loïc Lemain, interne en médecine spécialisée en psychiatrie et en addictologie, qui débattront sur la place de l'alcool dans la consommation à l'université et les éventuels moyens pour éviter de cocher la case « addiction ». Ce débat sera animé par Jeanne et Alexandra qui veilleront, accompagnés de leur bienveillance, à ce que l'on passe tous un bon moment. Pour finir, Maxime nous présentera l'agenda du mois santé, de sorte à ce que l'on soit tous au courant des événements qui nous permettent de prendre soin de nous. Bonne écoute, Anna, c'est à toi.
L'addiction, s'il vous plaît. Elle te transperce sans cesse, t'agresse. Côte de maille, tu tresses, bouclier en carton face à ta détresse. Elle connaît par cœur ton adresse, t'oppresse. T'enchaînes les maladresses, ta forteresse est assaillie par cette traîtresse. Nombreuses sont les embûches qui se dressent, tu les évites de justesse. En perte de vitesse, t'es proche de l'ivresse. Allez, décompresse, faut que tout ça cesse. Ton addiction, c'est ta pire faiblesse. L'addiction. Elle est sournoise, perfide. Elle diffuse son venin en toi, se répand insidieusement et contamine chaque cellule de ton être. Tu deviens prisonnier de ses sensations, t'en perds la tête. Tu fais face à un conflit intérieur permanent pour un sentiment d'euphorie éphémère. Tu deviens acteur de ta propre destruction pour soulager tes pulsions. J'ai été sur le fil rouge, en équilibre précaire, tout proche de tomber du côté sombre de la force. 15 juin 2021, France-Allemagne, premier match des Bleus à l'Euro 2020. 21h. Alors que la joie devrait résonner en moi, je suis face à ma télé, totalement seule. Un profond sentiment de tristesse m'envahit. Alors ça cogite dans ma caboche. J'avais vu une pub sur les paris sportifs et ça vendait du rêve. Je voulais appartenir au monde des parieurs et vivre les mêmes émotions qu'eux. Et je me suis dit, mais pourquoi pas tenter? C'est l'occasion idéale. Alors bim, une montée d'adrénaline s'empare de moi, je crée mon compte en 3 clics, un sentiment de toute puissance m'anime. Je regarde dans mon mar à café et je mise sur Griezmann buteur, victoire de la France 2-1. Et je me dis, allez, un pari et puis c'est tout. Que nenni, quelle belle crédulité. Puis, après l'allégresse des débuts, je tombe peu à peu dans une forme de dépendance. Je n'avais pas la bonne stratégie. Je misais de petites sommes sur des combinaisons de nombreux matchs, donc la probabilité de gagner était proche du néant. Mais à chaque échec, je me remettais en question, je me disais que le prochain c'était le bon, je le sentais bien. Et puis je gagnais 10 euros, cela balayait tous mes échecs, je reprenais confiance, une nouvelle dynamique s'insufflait en moi. Et je repartais au combat. Fallait continuer, c'était devenu un rouage essentiel de mon quotidien. Je me réveillais en pleine nuit pour surveiller les différents scores, je passais de longues heures à étudier les différentes cotes, je lisais des articles sur la forme des joueurs, j'analysais les statistiques que j'avais en ma possession, je pesais le pour et le contre. Finalement, c'était un véritable travail scientifique pour prendre la décision la plus éclairée possible. Mais cette activité s'est peu à peu transformée en besoin vital. Dès que je me réveillais, j'allais sur l'application, je regardais le programme de la journée, je lançais mes paris, je trépignais d'impatience. Dès que je me couchais, je tentais de tirer des enseignements des paris réalisés. D'une consommation récréative, c'est devenu une obsession. Et puis, t'es aussi attiré par le fait de pouvoir gagner de l'argent facilement. C'est un véritable engrenage, un cercle vicieux qui connaît tes failles, te laisse croire que tu es le maître de la situation, mais tu es juste esclave de leur application. Je ressentais plus aucun plaisir à regarder les matchs. J'avais seulement hâte au coup de sifflet final pour enfin décompresser et relâcher la pression. J'étais totalement désinhibée, suspendue à l'application, au temps qui défilait, à l'angoisse qui montait et à la désillusion qui s'installait peu à peu. Puis, je perdais, encore et encore. Fallait se refaire la santé, alors je pariais sur tout et n'importe quoi pour récupérer les sommes perdues. Je transgressais toutes les règles que je m'étais fixées au préalable. J'avais besoin d'argent et d'assouvir mes pulsions. J'avais totalement perdu le contrôle de mon être. Un sentiment d'échec m'habitait. Tout était terne autour de moi. La seule façon d'éprouver du plaisir était de gagner un pari. Ma vie était organisée autour de ça. J'ai voulu dire stop. Ces paris compulsifs avaient engendré trop de conséquences néfastes sur mon quotidien. Alors j'ai tenté d'arrêter, un sevrage pur et dur. Désinstaller l'application, fermer mon compte. Mais dès que mon niveau de vigilance diminuait, des fourmis parcouraient mes doigts, je saisissais mon smartphone, je réinstallais l'application et faisais défiler sans fin la liste des différents paris potentiels. Un jour, je me suis fait violence. J'ai regardé un match sans avoir parié. Même si ça me titillait, je vais pas vous le cacher. En plus, pour une fois, j'avais le bon pronostic. J'avais la haine. Et j'ai enfin redécouvert pourquoi j'aimais tant le sport. J'ai passé un véritable moment de bien-être. Libéré des chaînes qui m'entravaient. J'ai à nouveau pu goûter à toutes ces émotions qui te transportent, te portent vers le haut, te transcendent, te galvanisent. Je me suis enfin retrouvée moi-même. J'ai abandonné cette addiction sur le bas-côté et je suis partie sans me retourner. Je vais pas faire la promotion de l'addiction, mais s'il y en a bien une qui en vaut le détour, c'est celle de devenir addict à notre émission.
Vous êtes bien sur Radio U 101.1 et vous venez d'écouter La Limite de Tani Dual. Et nous sommes aujourd'hui en compagnie de Sam et Mana, étudiants à Brest, du docteur Loïc Lemain et de Jeanne et Alexandra, étudiantes relais santé à l'UBO. Le débat sur la consommation de l'alcool est ouvert, mais avant toute chose, commençons par un petit tour de table.
Alors du coup, moi je suis Jeanne, étudiante relais santé à l'UBO et je vais laisser la place à Sam pour qu'il se présente.
Donc moi, c'est Sam Jali, je suis pareil, étudiant à l'UBO, en master alimentation, droit, nutrition, santé à la faculté de médecine de Brest. Et vu que les problématiques de prévention, de santé m'intéressaient pas mal, quand on m'a proposé de venir participer à un débat sur les addictions, bah, ça m'a intéressé. Et me voilà ici, derrière ce micro.
Moi, je suis Mana, je suis arrivée du coup à Brest en septembre, dans la ville de la bière, parce qu'on boit beaucoup ici. Du coup, je suis étudiante en troisième année, en fait, à l'IPAG de Brest. Et bah, comme effectivement, cette ville est très connue pour l'alcool, je me suis dit que c'était intéressant de venir témoigner un peu de la vie étudiante et de l'alcoolisme.
Et donc Loïc, je suis un interne en médecine, donc spécialisé en addictologie et en psychiatrie. Et si je suis là aujourd'hui, c'était justement pour venir répondre à vos questions sur l'alcool, plus particulièrement chez les étudiants. Donc je voulais profiter d'être ici pour vous orienter sur ça.
D'accord, très bien. Alors on va commencer donc avec vous, Sam et Mana du coup. Je vais vous demander quel est votre rapport à l'alcool. Donc Mana, je te laisse commencer si tu veux.
Bah, l'alcool il est assez présent quand même dans ma vie je pense, parce que bah, la vie étudiante forcément elle incite la consommation d'alcool, souvent les jeudis soirs, enfin on les connaît. Et c'est vrai que après on est étudiant, donc pour moi il me paraît normal de consommer de l'alcool en fait, parce que j'ai 20 ans et que je suis étudiante. En plus en Bretagne, c'est vrai, enfin je suis pas de la région, donc quand on parle forcément Bretagne, on se dit alcool. Donc
très bien, merci. Et toi Sam, du coup quel est ton rapport à l'alcool?
Bah moi j'ai vécu le truc sans vraiment y réfléchir, c'est juste que ça paraît assez réflexe, on va boire un coup avec les collègues et puis on prend un petit verre, mais c'est pas un truc auquel je me suis déjà posé pour réfléchir très longtemps. Donc voilà un peu le rapport que j'en ai, je le vois un peu comme un divertissement et quelque chose qui accompagne de manière assez réflexe une petite soirée, mais voilà, un peu mon point de vue sur mon rapport à l'alcool, quoi.
Très bien, merci. Et du coup, quand vous commencez une soirée, est-ce que vous commencez la soirée avec directement un verre d'alcool ou bien un verre d'eau? Sam, je te laisse commencer peut-être.
Bah, ça va dépendre un peu du nombre de personnes et des gaziers qui sont autour. Mais généralement, non, pas forcément directement. Du moins, pas directement des alcools forts, enfin... C'était peut-être ça il y a 4-5 ans, mais je pense que peut-être qu'on se calme un peu ou on se fait un peu du palais, alors on part plus sur des vins, des trucs un peu plus posés. Mais non, en tout cas, pas commencer. Enfin, j'arrive pas à une soirée dans l'optique de faut boire tout de suite. C'est plus, faut pas oublier comme qu'on va en soirée pour passer du temps avec ses potes et que ça sert à rien de se jeter sur le verre tout de suite, quoi.
Très bien. Et toi, Mana, quel est. Du coup, est-ce que tu commences la soirée avec un verre d'eau ou bien un verre d'alcool?
Non, moi je suis plus sur l'alcool parce que bah, forcément ça met dans le mood. Des fois on n'est pas forcément très à l'aise et franchement ça désinhibe beaucoup l'alcool. Donc ça va être plus fluide, les relations entre les personnes vont être beaucoup plus fluides. Et perso, je sais que quand j'ai un petit coup dans le nez ou juste une bière, je vais beaucoup plus vite vers les gens, je parle avec eux, je suis hyper à l'aise avec eux, alors que j'aurais pris un jus d'orange, ça aurait été long, quoi.
Très bien, merci pour vos retours. Et donc maintenant, je vais m'adresser à Loïc. Du coup, que penses-tu du rapport que les jeunes ont avec l'alcool, et du coup, en Bretagne?
Alors moi non plus, je ne suis pas de la région. Donc quand je suis arrivé ici, effectivement, j'ai remarqué qu'il y avait un rapport assez important à l'alcool au niveau des soirées étudiantes, mais aussi également chez les adultes plus âgés, quoi. Je me rappelle, la première chose que j'ai vue en arrivant, c'était en novembre 2018, c'était des pubs pour les personnes alcoolisées lors des soirées de Noël, organisées par la ville, en fait. Et par rapport aux étudiants, moi, ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, au fil du temps, c'est des alcoolisations ponctuelles vachement répétées. par rapport aux personnes plus âgées, en fait. Ça, c'est curieux en France parce que on a une consommation d'alcool régulière qui diminue. Et en fait, mais une augmentation des consommations ponctuelles chez les jeunes, donc moins de 30 ans. Et c'est aussi ça qui est un peu limite parce que c'est pas vraiment une addiction vu que c'est un comportement pas fréquent. Mais ça reste problématique au niveau des complications de santé, que ce soit risque d'accident, maladie, etc. Donc c'est aussi pour ça qu'il faut faire attention à ces consommations lors des soirées étudiantes, justement. Et voilà.
Merci Loïc pour ton retour. Et donc maintenant, on a discuté un petit peu de votre rapport avec l'alcool, Sam et Mana. Pour vous, qu'est-ce qu'une consommation excessive ? Mana, je te laisse commencer.
La consommation excessive, pour moi, elle commence quand tu ne peux pas passer ta journée sans une goutte d'alcool. Vraiment. Enfin, je le ressens comme ça. Après, il y a aussi l'excès quand on ne peut pas se partir en soirée sans forcément se retourner la tête. Ça, c'est clairement excessif.
Et du coup, est-ce que toi, tu considères que ta consommation d'alcool est excessive ?
Ouais, en vrai, oui, je pense. Parce que mon rapport à l'alcool, il est quand même... Enfin, je sais que si je bois une bière, je vais en boire une deuxième, une troisième. Enfin, je peux pas m'arrêter. Quand je suis lancée, quoi. Et c'est ça, je sais que du coup, c'est une consommation assez excessive quand on sait pas s'arrêter.
D'accord, ça va un petit peu crescendo, quoi.
Ouais, effectivement.
Et toi, Sam, du coup, pour toi, qu'est-ce qu'une consommation excessive ?
Bah, je pense qu'il y a excessif dans la fréquence, genre tout le temps ou souvent, et c'est dur à définir. Je sais pas, je pense que si c'est tous les jours, c'est une chose, mais déjà 3, 4, 5 fois semaine, je trouve que ça fait quand même beaucoup. Et puis il y a aussi excessif sur l'instant, sur la soirée même, ou. Bah, pour moi, quand on perd totalement le contrôle de soi et qu'on se revoit le lendemain faire des choses qu'on n'aurait pas fait du tout si on était sobre, parce que ok, ça lève les barrières, etc. Donc bon, ça c'est des trucs, ça va, c'est fun, c'est cool de pouvoir parler plus facilement, etc. Mais quand on commence à faire des choses complètement improbables et dangereuses qu'on n'aurait vraiment pas fait si on n'avait pas bu un peu, je pense que bah, on est aussi dans l'excès. Donc quand on a consommé... à une soirée au point de faire des choses comme ça, je pense que c'est là qu'on peut parler d'excès, je pense. Après, voilà ce que j'en pense.
Très bien, merci. Et du coup, est-ce que toi, tu penses que ta consommation est excessive ?
Alors, je pense que ça a pu arriver sur certaines soirées ou sur certaines périodes un peu festives, mais dans l'ensemble, je dirais que non. Mais bon, c'est vrai que c'est vite arrivé. Enfin... Pareil, si on parle de fréquence, tu vois, tu vas à un festival ou un machin, bon, c'est clair que sur 4 jours, t'as été dans une période d'excès. Après, pour autant, c'est pas quelque chose qui se renouvelle toute l'année, donc je pense pas que ce soit excessif. Après, on a la chance d'avoir un interne, alors c'est peut-être à lui qu'il faudra demander, mais...
Merci pour vos témoignages. Et je souhaitais juste préciser que là, on est ici pour parler sans tabou. N'ayez pas peur d'être jugé. Donc Loïc, est-ce que tu peux nous apporter un petit peu ton expérience d'expert dans le domaine ? Et du coup, toi, qu'est-ce que tu... à partir de quand une consommation d'alcool peut être excessive, du coup ?
Alors, je ne vais pas trop les juger pour ne pas leur dire si leur consommation est excessive ou pas. Mais au niveau des consommations d'alcool excessives, c'est vaste comme sujet. Déjà, il y a au niveau de la fréquence plusieurs choses. Au niveau de la fréquence, on dit que c'est excessif à partir du moment où il y a des risques pour la santé qui commencent à se développer. Donc, ce qui est recommandé en fait en France, c'est 2 verres de vin par jour, 5 jours par semaine. Donc, l'importance de ne pas boire tous les jours, etc. Donc, ça fait 10 verres de. Quand je dis verre de vin, c'est verre d'unité d'alcool standard qu'on appelle, qui correspond soit à un ballon de vin, soit à une bouteille de 25 centilitres de bière. À 5 degrés. Donc c'est ça un verre d'alcool qu'on utilise pour mesurer en fait les consommations d'alcool standard. Et donc ça c'est au niveau de la fréquence. Et au niveau des consommations ponctuelles, ce qu'il faut éviter de dépasser. Donc, c'est 6 unités d'alcool par jour, par prise d'alcool. En fait, il y a la question du binge drinking aussi qui est assez fréquente chez les jeunes. Et c'est défini par une prise de plus de 6 unités standard d'alcool en l'espace de moins de 2 heures. Donc, unité standard, c'est ce que je disais, soit un demi de bière à 5 degrés, soit un ballon de vin, ou l'équivalent en alcool fort, quoi. Donc, ça correspond à 10 grammes d'alcool pur, en fait. Et c'est ça qu'il faut essayer de ne pas dépasser. Parce qu'au-delà, c'est ce que je disais tout à l'heure, au-delà de ces consommations, que ce soit sur la fréquence, sur le long terme, ou ponctuelles pour les alcoolisations ponctuelles, par exemple en soirée étudiante ou en binge drinking avec des amis, il risque d'y avoir des répercussions sur la santé ou au niveau d'accidents, etc., qu'on peut voir, qu'on voit souvent aux urgences d'ailleurs. Parce que moi, je travaille beaucoup aux urgences où on voit souvent des jeunes qui viennent pour des accidents de la route alcoolisés ou des chutes ou ce genre de choses. Ou des suspicions aussi d'agression sexuelle.
Très bien, merci pour toutes ces informations. La première partie du débat touche à sa fin.
We'll be right back.
Vous êtes actuellement sur Radio U 101.1 et vous venez d'écouter Choices de Blotch. Nous sommes toujours en compagnie de Sam et Mana, étudiants à Brest, et du docteur Loïc Lemain, et d'Alexandra, étudiante pour les santé à l'UBO. Le débat du jour est tourné vers l'alcool et la consommation excessive. Alexandra, je te laisse la parole.
Merci Yvan. Du coup, je voulais revenir, Loïc, sur... tu as abordé le sujet des points négatifs dus à l'alcool. Et je voulais vous demander à Mana et à Sam si vous vous étiez déjà senti en danger lorsque vous étiez alcoolisé ou lorsque vous étiez avec des amis qui l'étaient. Et si vous pouvez nous en parler un peu, je te laisse la parole, Mana.
Alors, je me suis jamais sentie en danger parce que j'avais beaucoup trop d'alcool dans le sang, je pense. Du coup, clairement inconsciente du danger en fait qui était présent. Mais c'est surtout le lendemain, effectivement, qu'on se rend compte qu'on s'est mis en danger. Alors, ça m'est arrivé, la dernière fois, c'était en novembre où en fait, j'ai laissé ma copine dormir sur un parking. Parce qu'on avait trop bu en fait et que l'alcool avait clairement pris le dessus et on n'était plus dans notre état normal. Et mais c'est le lendemain surtout que je me suis dit on s'est clairement mis en danger, va falloir calmer un petit peu. Du coup, depuis d'ailleurs, je me suis calmée.
Et pareil, des fois où il y a eu conscience du danger pendant la soirée, peut-être un peu moins que le lendemain. Mais les deux situations qui me viennent comme ça, c'est celle où on en a eu conscience tout de suite, c'est des situations un peu de bagarre entre sorties de soirée ou de bar où ça commence à se pousser à droite à gauche et où on ressent qu'à tout moment, on peut finir avec un cocard pour une semaine. Et sinon, c'est l'erreur d'être monté ou d'avoir pris la voiture avec au-dessus du seuil, on va dire. Donc à peu près les deux situations, je visualise un danger potentiel c'est inhérent en fait, c'est pas vraiment le fait de boire et de se dire tiens, j'ai trop bu, je suis en danger, je vais avoir un problème de santé à cause de ça, mais c'est plus des éléments qui se sont passés ou des choses qu'on a fait qui ont créé la situation de danger quoi. Voilà un peu les situations où j'ai ressenti un danger potentiel.
D'accord, merci beaucoup pour vos retours. Du coup, vous ressentez pas trop les dangers sur le moment. C'est vraiment le lendemain que vous y repensez et que vous dites que là, vous étiez en danger. Loïc, est-ce que tu peux nous dire ce que tu en penses et comment on pourrait faire pour que les jeunes fassent plus attention lors des soirées et est-ce qu'il faudrait mettre des mesures de prévention
Ouais. En fait, c'est assez classique que les jeunes, je dis jeunes, mais je ne suis pas un vieux, donc je m'inclus dedans, les jeunes fassent plus attention aux conséquences à court terme de désalcoolisation. C'est assez connu, en fait. Et donc, ils vont être plus attentifs, effectivement, aux risques d'accident, d'agression, etc., par rapport à des risques de cancer qui sont à très long terme, qui sont sur une consommation plus quotidienne, etc. Donc l'important, je pense que c'est déjà de réussir à prendre conscience des choses, de voir qu'on s'est mis en danger, et c'est ça après qui peut motiver ensuite un changement. C'est déjà un premier pas vers la prévention, c'est réussir à attirer l'attention des jeunes, des étudiants sur le risque de la consommation ponctuelle, quoi.
Juste, si je peux me permettre, je pense que c'est vrai que c'est un truc qu'on visualise pas du tout quand on a parlé de risque. Il n'y en a aucun de nous deux qui a évoqué les risques long terme sur la santé, quoi. Donc, je pense que c'est sûr qu'il y a un travail à faire là-dessus. Si c'est des problèmes qui sont avérés, c'est peut-être là qu'il faudrait qu'on prenne conscience des choses, alors.
Je voulais aussi vous demander si vous sentiez un impact de l'alcool sur votre vie quotidienne. Est-ce que le lendemain, ça vous empêche de faire ce que vous aviez prévu quand la soirée, vous avez trop bu, trop à cause de la gueule de bois ou toute autre chose? Est-ce que tu peux m'en parler, Sam, peut-être?
Ça a sûrement dû arriver. Après, faut essayer de s'organiser un peu, quoi. Quand on sait qu'on sort, soit les tâches qu'on a à faire, on assume qu'elles seront remises à un autre jour. On assume tout court et on essaye de les faire le mieux possible, mais c'est clair que pour la forme, la vitalité au cours de la journée, c'est sûr qu'on n'a pas la même après une soirée que quand on s'est reposé à 8 heures et qu'on n'a bu que de l'eau la veille. Donc forcément, je pense que ça a un impact sur la productivité et sur, le cœur qu'on met aux choses la journée d'après, quoi.
Ouais, on a clairement la flemme le lendemain. On veut rester regarder nos séries alors qu'on est censé réviser notre partiel. Enfin, ça, c'est sûr que la gueule de bois, ça met dans un mood de flemme, quoi.
Est-ce que du coup vous avez mis des mesures en place vous-même lors de vos soirées pour ne pas avoir ça le lendemain ou voilà, Sam, je te laisse.
Moi vraiment, je me force depuis quelques temps à boire beaucoup d'eau, mais genre tout le temps, et ça change vraiment la donne, je trouve, parce que j'ai l'impression de ressentir juste la fatigue du manque de sommeil, parce que je me sens beaucoup plus en forme depuis que je fais ça, et c'est vrai que ça fait une vraie différence, quoi. Donc ceux qui nous écoutent, hydratez-vous en soirée.
Ouais, la même, mais j'arrive pas trop encore à m'y tenir, quoi. Donc, je suis encore en travail là-dessus.
D'accord, très bien. Et Loïc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu pourquoi on a la gueule de bois
C'est par rapport à ce qu'il vient de dire, en fait, c'est exactement ça. C'est le risque de déshydratation, en fait, à cause de l'alcool. Et qui provoque ensuite des maux de tête, etc. Et on n'est pas bien le lendemain, donc d'où l'importance de s'hydrater. Mais sinon, à part l'hydratation, à part limiter les consommations, c'est bien aussi un peu.
Oui, en fait, c'est vraiment le signe d'une consommation excessive pendant la soirée, quoi.
Oui, c'est ça. Okay.
Je voulais vous demander, vous les étudiants, est-ce que vous avez déjà fait des soirées où vous n'avez pas bu ? Est-ce que ça vous êtes autant amusé ? Est-ce que... vous aviez eu envie de boire et pour quelle raison vous n'aviez pas bu pendant ces soirées ? Est-ce que vous deviez conduire ou c'était vraiment une obligation ou c'était vous qui ne vouliez pas boire ? Mana, je te laisse la parole.
Moi, c'est rare que je ne boive pas pendant une soirée parce que je suis dans le truc où si je ne bois pas, je m'ennuie. Vraiment. Parce que tout le monde... En fait, en plus, ce qui est bizarre, c'est que les gens bourrés entre eux, ils ont des délires. Et quand on est sobre, on n'est clairement pas dedans. Genre, on les voit faire des trucs et je ne comprends pas toujours. Du coup, je préfère être dans les personnes qui font n'importe quoi plutôt que spectateur. Parce que je trouve ça hyper frustrant en fait. Genre, tout le monde s'amuse, tout le monde rigole et toi, t'es pas dans le truc, tu les regardes, tu te dis mais what ? Et t'as envie de partir en fait. Alors que t'as envie de passer un moment avec eux, mais t'es pas dedans quoi.
Et pour le coup, moi je sais que ça m'est arrivé de faire des soirées où je buvais pas. Sur une période là de un mois où je préparais des concours où il y avait besoin de la cognition et du coup je m'étais dit bon je bois pas pendant un mois pas une goutte pour être à fond sur la cognition et c'est vrai que en fait je me suis bien amusé après c'est vrai que peut-être qu'en étant quelqu'un d'assez ouvert et tout ça aide mais pour le coup c'est vrai qu'il y a un moment où on n'est plus dans le train genre on passe une bonne soirée je pense jusqu'à 3-4 heures et après on va peut-être plus sentir la fatigue physique et puis justement aussi tous les autres commencent à être à quelques grammes et peut-être qu'on n'est plus, on ressent plus les choses comme eux, donc il y a un petit décalage qui se crée, mais pour autant c'est pas impossible de s'amuser et puis pareil ça nous permet d'assurer derrière sur ce qu'on a à faire vraiment dans notre vie, donc c'est pas plus mal de savoir s'amuser même si c'est un peu plus court, mais que derrière on réussit ce qu'on essaye de réussir, donc voilà.
Oui, au final, vous avez du mal à ne pas boire en soirée parce que tout le monde boit et du coup, vous ne vous sentez pas inclus dans les délires des autres étudiants.
Ouais.
Donc, c'est vrai que ça, c'est un problème par rapport à la culture, peut-être, des soirées étudiantes en Bretagne.
Même en France, en général. Ouais. Hein, parce qu'en France, je pense qu'il y a quand même une culture autour de l'alcool, ne serait-ce que la promotion du vin, des choses comme ça. Enfin, je pense que la France est un pays proche de son verre de vin, quoi.
Oui. Oui, c'est très banalisé.
Oui, socialement, c'est assez étrange de ne pas boire.
Ouais.
Moi, le premier d'ailleurs, quelqu'un qui ne boit pas en soirée, tu te dis, tiens, pour quelle raison elle ne boit pas
L'invitation, c'est souvent apéro, point d'interrogation, donc forcément, on se regroupe aussi pour ça, quoi.
Par contre, vous n'avez pas ressenti trop, quand tu faisais des soirées sans boire, tu ne ressentais pas trop la pression du groupe, des personnes autour de toi ?
Je pense que non, parce que entouré de personnes qui comprennent la raison pour laquelle on ne veut pas boire ce soir-là, que ce soit pour entrer en sécurité ou que ce soit parce que justement on veut être productif, si les personnes autour comprennent les objectifs, je pense que voilà, c'est à eux d'accepter, même si au bout d'un certain temps, il y a sûrement un qui tend un verre pour dire bah allez mec, mais bon, faut savoir ce qu'on veut, et puis voilà quoi.
Ouais, un bon conseil, c'est d'expliquer pourquoi tu ne bois pas comme ça.
Bah ouais, c'est ça, et puis je pense qu'il n'y a pas de raison en plus qu'ils ne se valent pas si on ne boit pas par volonté personnelle ou que ce soit pour des objectifs, ou voilà, il n'y a pas de, y a pas une raison qui vaut mieux qu'une autre, donc faut pas avoir peur de ça, je pense.
Oui.
Et juste, c'est aussi un facteur assez de maintien dans la dépendance, c'est les environnements qui consomment énormément. Quelqu'un qui s'arrête de boire et qui reste dans un environnement où il consomme beaucoup, il va plus facilement rechuter, sinon il risque un isolement social, de se couper de son milieu, etc. Donc c'est beaucoup plus compliqué dans ce cas-là.
D'accord, merci.
Très bien, le débat touche à sa fin. Vous avez peut-être un dernier mot avant de rendre le micro pour laisser une petite note positive sur, en termes de prévention, ce que vous pourrez conseiller pour éviter toute consommation excessive ou encore addiction.
Et hydratez-vous en soirée, moi je reviens là-dessus parce que ça a changé ma vie.
Et n'hésitez pas à venir nous voir à Brest au CHU si c'est trop compliqué pour vous.
Oui voilà, en ce sens on se posait la question aussi très rapidement, à partir de quel moment il faut peut-être se tourner vers des questions auprès de professionnels médicaux.
Quand on estime que c'est trop, qu'on n'arrive plus à diminuer sa consommation soi-même et qu'il y a des conséquences au niveau des études financières ou judiciaires à cause de l'alcool.
Ok, le message est passé. Nous venons de finir notre débat sur l'alcool et la consommation excessive. Maxime, place à l'agenda santé du mois.
Merci beaucoup Yvan et bonsoir à tous les Brestois. Pour cette première émission d'Univers Santé, il y a plein d'événements qui vous attendent ce mois-ci. Alors sortez vos agendas, ouvrez bien vos oreilles et c'est parti pour l'agenda de février. Pour commencer, la semaine des ERS a repris sur Instagram. Je rappelle vite fait le principe, chaque jour, un ERS fait une story sur différents sujets de santé, comme les addictions par exemple ou encore le harcèlement. D'ailleurs, nous allons faire une action sur le thème du harcèlement le 10 février à Quimper. N'hésitez pas à nous suivre sur notre compte Instagram pour plus d'infos. Si vous êtes sur Brest, du mardi au dimanche, rendez-vous au Halle Saint-Louis pour faire vos courses locales et pas chères. Maintenant, si vous voulez faire du sport et vous évader, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site du SUAPS, la salle de sport de l'UBO, qui propose tout un tas d'activités physiques pour se détendre entre amis ou alors pour se défouler. À l'approche du 14 février, en plus d'être la journée des amoureux, c'est la journée internationale de l'épilepsie. Une conférence sur le thème « Amour et épilepsie » est organisée en visioconférence. Il suffit de s'inscrire sur le site de la Ligue française contre l'épilepsie pour y avoir accès. D'autres manifestations sont dédiées à cette maladie du 14 février au 18 et sont organisées par la même ligue. Le 15 février 2022, c'est la journée dédiée à la journée internationale du cancer de l'enfant ainsi que la journée du syndrome d'Angelman. C'est une maladie génétique dont la prise en charge dépend de la recherche scientifique et la recherche scientifique dépend des financements, donc en parler permet de sensibiliser sur le sujet. Ce même jour, donc le 15 février, il implique aussi la réduction à 4 mois du délai pour réaliser votre dose de rappel après votre dernière injection, donc pour un pass vaccinal valide, donc si vous êtes concerné, c'est à noter. Si vous aimez voyager, une exposition de photos « Monde imparfait » est organisée à la médiathèque François Mitterrand au Capucin. Ça se passe le 12 février à 15h et le 26 février à 11h. Avant de se dire au revoir, est-ce que les lundis de la santé, ça vous dit quelque chose? Si vous ne le saviez pas, ce sont des conférences retranscrites en direct sur la chaîne YouTube de Brest.fr. Et des spécialistes de la santé seront en live afin de répondre et de parler de plusieurs thématiques de santé. Et ça se passe tous les lundis à 18h30. Donc on en a fini pour ce calendrier de la santé. Je vous souhaite donc un bon mois de février et on se retrouve en mars pour parler de santé mentale. Et d'ici là, prenez soin de vous.
Merci Maxime. Il est maintenant l'heure des remerciements. Alors merci Sam, merci Mana. Merci docteur Loïc Lemain et les étudiants Relais Santé pour votre présence pour notre premier rendez-vous Univers Santé. Lors de cet échange, nous avons pu mettre en avant les différents rapports avec la consommation d'alcool chez les étudiants, comprendre les rouages derrière une addiction et les moyens qui existent pour les éviter. Pour rappel, l'émission Univers Santé sera présentée tous les deuxièmes mardis du mois. Pour toutes celles et ceux qui seraient indisponibles à ces dates, l'émission est disponible en podcast sur le site internet de Radio U. Merci à vous et bonne soirée.